Avant que nous ne puissions nous lever pour la prière, je voudrais encore lire un court psaume. Voici ce que le psalmiste dit dans le psaume 130. Psaume 130, verset 1. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Seigneur. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu gardais le souvenir des péchés, ô Seigneur, qui pourrait subsister devant toi? Mais le pardon est auprès de toi, afin que l'on te craigne. Verset 5, j'espère dans le Seigneur, mon âme espère, et j'attends sa parole. Mon âme compte sur le Tout-Puissant, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin, Israël espère dans le Seigneur. Car la miséricorde est auprès du Seigneur et la délivrance est auprès de lui en abondance. Et il rachètera Israël de tous ses péchés. Il le fera aussi pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Nous le croyons de tout notre cœur. Et c'est pourquoi nous voulons regarder vers lui. Il reprend le verset 3. Si tu gardais le souvenir des péchés, ô Seigneur, qui pourrait subsister devant toi? Je crois qu'il n'y a personne parmi nous qui se sente si juste qu'il n'ait pas de péché, pas de faute. Mais nous voulons tous venir à lui tel que nous sommes. Moi, toi, nous tous, nous voulons lui offrir l'honneur, lui donner l'honneur, la louange et lui demander de continuer à nous parler par sa précieuse et sainte parole. Avant que le frère Franck ne s'avance, levons-nous et prions ensemble. Fidèle Dieu, nous te remercions du profond de notre cœur. Seigneur, tu vois notre désir, tu connais notre désir, tu vois et tu sais comment nous pensons. Seigneur, ôte de nous, oui, tout ce qui est tiède et lourd. Donne-nous ton bon Saint-Esprit, donne-nous un feu dans nos cœurs, qu'il brûle pour toi, ô Seigneur, que nous puissions te louer, ô Dieu, que nous puissions aussi t'adorer de manière juste, ô Seigneur. Seigneur, nous avons chanté ces glorieux cantiques. Nous te prions de nous faire grâce. Seigneur, rapproche-nous de ton cœur. Aie pitié de nous ce soir et bénis-nous, ô Dieu. Car nous sommes venus, non pas par habitude, Dieu fidèle, non pas seulement pour nous tenir ici et nous présenter simplement ici, mais tu vois nos cœurs, tu nous connais, tu sais quelles sont nos pensées, chacun d'entre nous, ô Dieu, et nous te prions intimement, fais-nous grâce, Seigneur, et aide-nous ce soir, et nous serons aidés, bénis-nous, et nous serons bénis. Seigneur, tu connais nos cœurs, peut-être avons-nous de la joie, peut-être avons-nous de la souffrance, tu connais tout, Seigneur, l'état de chaque cœur. Mais tu es capable, Seigneur, de nous donner ou de donner à nos cœurs ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi nous levons les yeux vers toi et nous te prions d'ôter tout ce qui te fait obstacle dans ma vie et dans nos vies à tous, Seigneur. Sois proche de nous maintenant, Seigneur, maintenant que nous écouterons ta précieuse et sainte parole. Nous te le demandons. Bénis notre frère, Seigneur. Bénis tous, Seigneur, et ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Oui, de l'autre côté de la rive, il n'y aura plus aucune trace de tout ce qui est ici sur la terre. Les choses anciennes seront passées et oubliées, et tout aura été renouvelé. Oui, nos cœurs, nos corps aussi seront nouveaux, renouvelés. Toutes les infirmités, tout ce qui, oui, nous donnait du fil à retordre ne sera plus. Et Paul l'exprime dans Romains chapitre 8, en disant, non seulement toute la création, mais nous aussi, Nous gémissons dans ce corps en attendant la rédemption de notre corps. Selon Romains 8, versets 22 et 23, il y a toujours tant de choses qui sont dans le cœur et que l'on voudrait dire. Mais nous avons déjà, dans les cantiques et dans ce qui a été dit, pris, oui, beaucoup de choses à cœur. La question est de savoir s'il y a un véritable désir, non pas seulement de parler des enseignements bibliques ou des connaissances bibliques. Et je dois l'avouer en toute honnêteté, chaque fois que je rencontre des personnes qui ont envie de débattre, alors je porte en moi une souffrance très profonde. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de se rapprocher du Seigneur. Que quelqu'un sache beaucoup ou peu, l'important est qu'il puisse dire, « Je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Et que je le verrai. Oui, même si ma chair est entièrement détruite, je verrai Dieu. » Amen. Selon Job 19, 25-26. Il est important de placer clairement cela et dire que nous sommes reconnaissants pour tous les enseignements parce que nous croyons que nous avons le droit d'être correctement enseignés. Mais nous avons aussi le droit à toutes les bénédictions, le droit à l'accomplissement de toutes les promesses. Et parfois, j'ai l'impression, oui, qu'il s'agisse de moi seul ou de nous tous, j'ai l'impression que nous avons en quelque sorte attristé le Seigneur, que ce soit par incrédulité ou par quoi que ce soit d'autre. Mais j'ai l'impression que Dieu n'arrive pas exactement à ce qui lui revient de droit comme il le voudrait. Et notre connexion, notre lien avec lui et notre communion avec lui ne sont pas aussi intimes, aussi brûlantes qu'elles devraient l'être. Si nous prenons là nos frères dans le christianisme primitif, si nous les prenons en comparaison, ils disaient « Maranatha, le Seigneur revient ». Il y avait une attente du retour du Seigneur. Ils avaient cette attente à leur époque. Ils ont laissé de côté les choses extérieures. Ils les ont laissées à gauche et à droite. Ils les ont laissées réellement et ils ont servi le Seigneur. Et comme nous l'avons déjà dit, ils ont reçu les bénédictions et étaient prêts et attendaient la venue du Seigneur. Oui. À quoi nous servirait de tout savoir correctement, d'avoir toute la connaissance et tout le bon enseignement? Oui, naturellement, Dieu soit remercié pour cela. Je ne voudrais pas le manquer, car cela fait partie de la chose. Oui, l'enseignement est le fondement sur lequel nous pouvons bâtir, construire. Mais tout cela n'est que la base. Et ensuite, nous devons construire. Comme nous l'avons déjà considéré ici, toutes ces vertus, mais elles ne peuvent pas venir d'elles-mêmes. Ce sont des caractéristiques, des qualités divines que nous ne pouvons pas apporter, mais que nous recevons de Dieu. Si nous pouvions apporter ne serait-ce qu'une seule de ces vertus, de ces caractéristiques mentionnées dans 1 Pierre chapitre 2, alors nous n'aurions pas besoin de faire tant d'efforts devant Dieu pour être gratifié par lui et recevoir tout cela. Mais je crois que nous sommes destinés à ces choses en ces derniers jours. Oui, destinés à être plus intimes dans l'amour pour Dieu et les uns pour les autres. Et le Seigneur dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Et puis il a ajouté un autre commandement en disant, je vous donne un nouveau commandement, selon Jean 13, verset 34. Pratiquer et vivre l'amour divin est maintenant exigé. Amen. Qu'on ne se contente plus des paroles simplement à ce sujet, mais qu'on laisse le Seigneur nous montrer comment cela se fait dans la pratique. Dans les dernières lignes de 1 Corinthiens chapitre 16, Paul a prononcé quelques paroles qui sont très crues, qui sont dures, qui sont presque incompréhensibles. Il termine, oui, ses 16 premières lettres à l'église de Corinthe par ces paroles. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 21. Je vous salue, moi Paul, par ma propre main. Verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Maranatha. Verset 23. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, mon amour, et avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. On pourrait dire, Paul, tu as été un peu trop dur ici. Mais je crois que je l'ai aussi dit ici récemment. Nous avons considéré la parole du prophète Malachie, où le Seigneur dit, en ce jour-là, vous verrez alors la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Amen. Entre celui qui m'aime et celui qui ne m'aime pas. Entre celui qui me suit et celui qui ne me suit pas. Malachie chapitre 3, verset 18. Paul savait que tout ce qui n'aime pas le Seigneur demeure sous la colère de Dieu et qu'ils finiront par être frappés par la malédiction. Comme nous pouvons alors être reconnaissants et nous ne regardons personne d'en haut, car ces temps sont révolus pour toujours. Mais au contraire, nous levons les yeux vers le ciel, vers notre Seigneur, qui nous a précédés et qui a préparé une place. Et très bientôt, il reviendra pour prendre les siens à la maison. Et lorsque Paul dit ici, au verset 22 de 1 Corinthiens 16, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. » Ça, c'est une expression dure. Aimons-nous le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Est-ce que je l'aime? Qu'en est-il de nous aux yeux de Dieu? Pas seulement selon notre jugement. Oui, nous disons, Seigneur, je t'aime. Et nous suivons nos propres voies. Celui qui aime le Seigneur le servira. Il s'attachera à lui de tout son cœur. Il marchera docilement et de manière obéissante sur son chemin et se laissera bénir et utiliser par Dieu. Le verset 23, 1 Corinthiens 16, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Et c'est ce que nous souhaitons tous, que la grâce soit avec nous. Dans le psaume 105, nous avons une comparaison de la voie que Dieu a suivie ou a prise avec le peuple d'Israël. Nous avons ici, en particulier dans ces deux psaumes, oui, un registre des hauts et des bas avec et parmi le peuple de Dieu. Il est dit, dans le psaume 105, à partir du verset 5, « Souvenez-vous de ses merveilles qu'il a faites, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Vous, enfants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. » Lorsque nous lisons ces paroles de cette manière, Alors, oui, elles nous sont aussi rappelées. Et nous devons toujours nous souvenir de ce que Dieu a fait. Les voies de Dieu avec son peuple, oui, sont véritablement passées par des hauts et des bas, mais particulièrement parce que Dieu, oui, mais parce que Dieu, précisément parce que Dieu a accordé tout son amour, sa grâce et son attention à ce peuple qu'il a, c'est pour cela qu'il s'est préoccupé de lui seul. Il n'a rien fait pour les Amoréens, les Jébusiens et tous ceux qui étaient autour, pour les sept nations en particulier qui habitaient le pays de Canaan, car il n'avait aucun plan avec eux. Ces nations n'étaient pas dans son programme. Oui, Dieu a eu la grâce de... Par grâce, Dieu s'est occupé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a suivi son chemin avec eux. Abraham était son serviteur. Il reprend le verset 6 du psaume 105. Vous, enfants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. Verset 7, le Seigneur est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Verset 8, il se souvient de son alliance pour toujours, de la parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations. Il se souvient, verset 9, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et le serment qu'il a juré à Isaac, qu'il a confirmé pour Jacob comme loi et pour Israël comme alliance éternelle. En disant, verset 11, je te donnerai Canaan, le pays que je vous ai donné en héritage. Amen. Dieu a donné, il a réparti, il a veillé à ce que toute chose soit juste. Oui. Je me souviens de la prédication dans laquelle Frère Branham, oui, parle de la voiture d'un homme qui a été volé et du fait que l'ennemi n'a pas le droit de faire valoir sa puissance ou quoi que ce soit sur les biens des croyants. Et si nous considérons ce que Dieu nous a donné, oui, comme promesse et bénédiction, si nous considérons tout ce qui fait vraiment partie de la vie de l'Église, que ce n'est pas un club ou une association terrestre, une loge, un cimetière, mais un organisme vivant du corps du Seigneur qui doit servir à ce que Dieu puisse toujours se glorifier. Ça, c'est une chose. L'autre côté de la chose est que l'ennemi veut toujours nous prendre ce qui nous a été légitimement acquis et donné. Et nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes une propriété légitime de Dieu parce que le sang a été payé comme rançon, comme prix. Et aussi, tous les droits, tout ce qui nous a été promis et donné par Dieu en tant que fils et filles de Dieu, nous appartient également. Et nous devons parfois constater avec une grande tristesse que l'ennemi veut encore exercer son pouvoir ou son droit alors qu'il a perdu tout droit sur nous. Amen. Je suis particulièrement touché lorsque j'entends dire que des personnes, oui, sont croyants depuis 30 ans, 40 ans, et qu'elles ont écouté, ces personnes ont écouté toutes les précieuses prédications et chanté tous les cantiques merveilleux. Et tout à coup, comme cela s'est produit aujourd'hui, un appel arrive et il est dit, frère Franck, nous sommes dans une très, très grande détresse. Et alors, c'est parti. Et puis, à la fin d'une telle conversation, on se pose la question de savoir ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu et la parole de Dieu, qu'est-ce que le sang de l'agneau et l'esprit de Dieu ont pu manifester si ensuite on ne le qualifie pas simplement d'incrédulité. Et frère Bruce a demandé, quel est notre désir? De quoi est-ce qu'il s'agit pour nous? Si ce n'est d'une seule chose, que Dieu puisse nous équiper de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et que le diable soit mis hors d'état de nuire dans la vie de chacun. Et qu'il ne soit pas seulement un peu mis de côté, mais qu'il puisse se retirer, qu'il puisse dégager. Il ne peut pas en être autrement. Vous savez bien que nous qui croyons de tout cœur en notre Seigneur et qui l'aimons profondément, nous savons qu'il a vaincu la mort. Et lors des enterrements, la chose est toujours exprimée et on dit, Seigneur, tu as vaincu la mort. Mais le moment n'est pas encore venu où ta victoire sera totalement manifestée. Le moment où la mort ne sera plus. Mais comme il est dit dans l'Apocalypse, et là où il est parlé du moment où la cause de Dieu, l'œuvre de Dieu avec l'Église arrivera à son terme. Mais nous savons que la mort est une chose qui a perdu son droit sur nous. Amen. Mais pourtant, la mort a régné sur tous les prophètes, sur tous les apôtres, sur tous jusqu'à aujourd'hui. Et elle fait valoir, ou elle a fait valoir son droit. Nous savons une chose, c'est qu'au fond, un homme croyant ne meurt pas. Car c'est ce que notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean au chapitre 11. En vérité, je te le dis, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra plus jamais. Selon Jean chapitre 11, versets 25 et 26, les croyants vont rentrer seulement à la maison. Ils ne meurent pas. La mort ne les engloutit pas. La mort a été engloutie pour eux. La mort est pour eux la porte, l'entrée du temps, le passage du temps à l'éternité. Mais pourtant, tout se rebelle en nous, tout se bouge en nous, parce que nous avons été destinés à la vie éternelle en tant que des fils et filles de Dieu. Et nous savons que la mort règne injustement sur nous. Alléluia. Le péché, la maladie, les liens, la possession et tout ce qui s'ensuit, toutes ces choses règnent sur nous sans droit, indignement. Car si nous croyons ce que disent les Saintes Écritures, tout le mal causé par le premier Adam doit avoir été réparé par le deuxième Adam, c'est-à-dire Christ. Amen. Paul l'exprime également dans la lettre aux Corinthiens. De même que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Selon 1 Corinthiens 15, verset 22. Et nous devons commencer à nous détourner, à nous relever contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Et alors, nous réussirons à donner à la fois la dynamite divine nécessaire pour qu'une charge explosive soit placée ou posée afin que ceux qui sont liés soient libérés. Amen. Quand j'ai entendu aujourd'hui les paroles suivantes, frère Franck, c'est une possession, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oh, alors on a le cœur déchiré. Notre Seigneur avait un ministère. Et cela, personne ne peut l'ignorer. Personne ne pourra ne pas l'avoir entendu ou passer outre. Le ministère du Seigneur consistait à libérer ce qui était lié, faire grâce aux pécheurs, guérir les malades, annoncer l'année agréable du Seigneur. C'est ainsi que nous le lisons dans Ésaïe chapitre 61, c'est ainsi que nous le lisons dans Luc chapitre 4, Luc 4 verset 18, Ésaïe 61 verset 1. Et maintenant, si l'Église doit poursuivre ses services, alors nous devons nous attendre à ce qu'il ne s'agisse pas seulement d'un beau service avec trois cantiques au début et un cantique à la fin, et deux et avec des chœurs entre les deux et une prédication, puis nous rentrons chez nous. Nous ne pouvons plus le faire. Et cela avec une bonne conscience. Face à toutes les détresses, tous les problèmes, tous les effets de la puissance de l'ennemi, nous sommes là pour parler de ce que le diable fait. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes là? Ou alors sommes-nous là pour être quelque chose à la louange de la grâce et de la gloire de Dieu? Pourquoi sommes-nous là en tant qu'enfants de Dieu? Sommes-nous là pour que l'ennemi joue du football avec nous? Ou alors pour que Dieu puisse nous utiliser et qu'il puisse se glorifier et confirmer sa parole? Nous l'avons vu, le peuple d'Israël était destiné à être porteur des paroles de la révélation divine. Et croyez-le ou non, tous les autres ont servi leur Dieu. Et je l'ai lu ici il n'y a pas longtemps. Même Tara et Nakor et tous, le père et frère et frères d'Abraham, ils ont aussi servi les dieux étrangers. Et Abraham aussi, jusqu'à là, a servi des dieux étrangers. Mais, lorsque le Dieu vivant lui est apparu, alors tout était terminé. Gloire à Dieu. Les dieux n'étaient plus pour lui que des idoles. Et il s'est détourné d'eux. Il a cru et a servi le Dieu vivant. Il regarda vers Dieu, l'invisible, comme s'il le voyait. Alléluia. Ici, nous avons lu dans le psaume 105, au verset 8, « Il se souvient de son alliance pour toujours. » Ça, c'est ce qui est beau avec Dieu. Ce que nous convenons est toujours limité dans le temps et dépendant des circonstances, nous, les hommes. Mais ce que Dieu fait est fait pour l'éternité. Verset 8, « Il se souvient de son alliance pour toujours. » De la parole qu'il a donnée pour 1000 générations. Amen. De l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac, qu'il a juré à Isaac, qu'il a confirmé pour Jacob comme loi et pour Israël comme alliance éternelle. Et puis vient le verset 11, lorsqu'il a dit, ou en disant, « Je te donnerai Canaan, le pays que je vous ai donné en héritage. » Amen. C'était la promesse. C'était l'alliance faite déjà avec Abraham. Cette alliance faite par Dieu. Et ensuite, avec tout le peuple d'Israël sur le mont du Sinaï. Qu'est-ce que c'était? L'alliance de Dieu ne se limitait pas seulement à des paroles, mais elle contenait bien plus. Il s'agissait de promesses divines. C'était une confirmation divine que Dieu tient sa parole, qu'il est fidèle à sa parole. Lors l'heure et le jour devaient venir où le Jourdain devrait être traversé, où le peuple pourrait être, où le pays pourrait être pris en possession, car c'est ainsi que Dieu l'avait promis. Et il y avait toujours des hommes avec lesquels il pouvait continuer à avancer, qui n'étaient pas de ceux qui murmuraient et regardent en arrière, mais des hommes qui étaient reconnaissants et allaient de l'avant. Alléluia! Dieu se gardera toujours un reste. Et je vous le dis, je cherche toujours la faute chez moi-même, et cela me plonge parfois dans une profonde détresse intérieure. Mais nous devons aussi, en tant qu'assemblée et chacun personnellement, nous devons nous présenter devant Dieu et dire simplement à notre Dieu, dis à ton Dieu et que chacun le fasse de tout son cœur. Dis à ton Dieu, Seigneur, tu as parlé en ces jours avec nous. Tu t'es révélé à nous. Tu as rendu vivantes devant nous les promesses pour ce temps. Et tu les as placées dans nos cœurs. Nous avons entendu et nous avons vu que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, donne à tes serviteurs la force, la puissance de proclamer ta parole avec assurance, étendant ton bras et accomplissant des miracles et des signes. Alléluia. Alors, quelqu'un dira, « Oh, il y a tant d'évangélistes qui font des miracles et des signes. » Arrêtons toutes ces comparaisons. Ce genre de comparaison nous bloque et ne sert à rien. Ça ne fait pas du bien. Qu'avons-nous à faire des comparaisons avec des faux oints, avec ceci ou cela? N'est-ce pas notre devoir honnête et notre obligation devant Dieu de nous comparer à ce qui était dans le christianisme primitif pour voir si Dieu peut faire ou prendre le même chemin avec nous, si les mêmes choses peuvent se produire? Imaginez-vous que nous passions notre temps et cela pourrait se faire 24 toute la journée. Imaginez-vous que nous passions notre temps à faire des comparaisons et à choisir des exemples nécessaires, puis à sortir notre tête de l'ornière et à continuer simplement joyeusement. Des comparaisons avec des évangélistes ou des croyants ou des églises ou des frères ou des sœurs que nous connaissons ou quoi que ce soit d'autre ne nous servent. Ces comparaisons ne nous servent à rien. Il est juste important pour nous de nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu et de dire, Seigneur, c'est ainsi. Et nous avons entendu le message de la restauration. C'est ainsi que cela doit être et c'est ainsi que cela sera. Amen. Nous sommes ici, aide-nous, nous ne pouvons pas faire autrement. Et alors, Dieu honorera sa parole. Mais cela doit se faire véritablement, véritablement dans la foi totale. Je le répète, si nous regardons les autres et disons oui, ils ont expérimenté les bénédictions, et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Alors, si nous regardons aux autres et pensons cela, alors nous n'avons pas encore compris comment et ce que Dieu nous a dit. Alors là, c'est l'ennemi qui, par des manœuvres, des diversions, veut nous détourner de notre propre état pathétique et de nos limites. Et il semble qu'il y soit parvenu. Mais cela ne peut plus durer. quelque chose doit s'élever en nous. Quelque chose que nous ne pouvons plus retenir. Et nous disons, je suis à toi, ô Seigneur. J'ai entendu ta parole et ton amour habite en moi. L'amour pour Dieu, l'amour pour sa parole, l'amour les uns pour les autres, l'amour divin dans lequel nous sommes plongés, immergés, doit être agissant. Et aussi tous les dons de l'Esprit doivent aussi trouver leur place dans l'Église. Dieu a tout mis cela dans l'Église et Frère Branham a dit simplement, je peux vous montrer où Dieu a promis et où il l'a donné. Et, mais vous maintenant, vous pouvez aussi me montrer alors où est-ce qu'il a annulé la promesse et où il l'a retiré. Et cela n'existe pas. Alors, je ne veux pas que nous ayons une considération comme des incrédules ou comme des hommes de petite foi, mais que nous puissions simplement dire, Seigneur, nous ne sommes que des hommes, nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes ou aider les autres, mais nous voulons que tu puisses nous aider, que tu viennes à ce qui te revient de droit. Et cela, tous les démons de la maladie, toutes les puissances des ténèbres, le diable doit le prendre en connaissance un jour et savoir que nous parlons au nom du Seigneur et que la parole de Dieu a force de loi et d'obligation pour lui aussi et qu'il doit se plier à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça ne peut pas être autrement. Il est impossible de continuer ainsi. Nous ne savons pas exactement quel chemin Dieu poursuit avec nous. Mais nous savons une chose. Ça doit être un chemin biblique. Sans si, ni mais, sans excuse, à gauche ou à droite. Nous nous plions à ce devoir divin. Et nous disons, Seigneur, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être, ni ce que nous étions autrefois. Mais nous sommes prêts à te croire, à te servir, à t'obéir et à t'aimer. Nous sommes prêts à nous mettre à ton service. Prends-nous, fais avec nous et par nous ce que tu as promis. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mentionner que quelqu'un, oui, en cela cherche sa propre gloire. Il faudra que cette personne soit un peu stupide. Car qui d'entre nous n'aurait pas reconnu depuis longtemps à quel point nous sommes pitoyables, quel tas de misère nous représentons, à quel point chacun de nous est impuissant, sans force, sans espoir. Il n'y a plus personne qui pourrait arracher des arbres, spirituellement parlant, pour accomplir des œuvres. Mais nous avons un Dieu dans le ciel. Nous avons un Seigneur assis à la droite de la majesté divine qui attend que tous ses ennemis soient placés sur son marchepied. Oui, la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Telle est la grandeur de Dieu. Il s'étend du ciel jusqu'à la terre. Oui, c'est écrit comme ça. Que le ciel est mon trône. Et la terre, mon marchepied, selon Ésaïe 66, verset 1. C'est pourquoi Dieu n'est pas seulement au ciel. Dieu est sur la terre. Dieu est présent. Et lorsque la foi devient une foi vivante, alors Dieu vient à ce qui lui revient. Et si tous les ennemis doivent être placés sur son marchepied, ce n'est pas seulement au ciel, car la terre est son marchepied. C'est ici, sur cette terre, que Satan a plongé les hommes dans le malheur. C'est ici, sur cette terre, que le Seigneur a payé le prix par son sang et qu'il a pris sur lui la malédiction. C'est ici, sur cette terre, que doit se manifester la victoire de Dieu qui s'est accomplie à la croix de Golgotha. Il ne peut pas en être autrement. Il doit en être ainsi et il en sera ainsi avec l'aide et par la grâce de notre Seigneur, de notre Dieu. Amen. Levons-nous pour la prière. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur pour les puissantes paroles que nous, de ce soir. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes rien devant toi et que nous ne pouvons rien, Seigneur, mais toi, tu peux tout. Et nous venons à toi tel que nous sommes. Nous ne pouvons rien prendre de nous-mêmes, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous rendre meilleurs. Mais regarde vers nous en grâce. Accepte-nous, ô Seigneur. Rapproche-nous de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Surtout moi. Aie pitié de moi, ô Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Frère Franck prie. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte présence, pour ta sainte parole, pour ton saint sang, pour ton Saint-Esprit. Et ensemble, nous te prions, viens à ce qui te revient de droit dans nos vies et au milieu de nous. Alléluia. Fais-nous voir de nos propres yeux que tu reviens dans ton Église et que tu te révèles, que tu confirmes ta parole, que tu sauves les pécheurs, que tu guéris les malades, que tu délivres les enchaînés ou liés, que la parole de la croix devienne une puissance divine pour tous ceux qui croient. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen.